un cours de.
La voix qui est la plus évidemment silencieuse sur son sens, en particulier, bien que nous disions dans la Tfila que c'est Zman Matan Torah Tenu, la Torah ne dit pas du tout explicitement que Shavuot correspond à Matan Torah. De plus, comme vous savez, Shavuot n'a pas de date fixée comme Pessah ou Sukkot, qui sont pour le 15 du mois. Le Shavuot est défini par un compte de cette semaine ou 49 jours à partir d'un certain moment proche, à partir de Pessah, en gros. Ah, voilà. Ah, ben non. Alors, il est arrivé, il est entré ou quoi? Non, parce que voilà. Peut entrer, mais il n'entre pas. Oui, ça s'affiche. Admit, et puis on appuie dessus, et ça marche quand même pas. Voilà qui est fait. OK. Bien entendu, ce silence n'est pas un oubli, c'est une direction particulière. On va essayer de partir à partir du pain de Adam. Partir du pain parce que dans le korban spécifique de Shavuot, on amène ce qu'on appelle shté alechem, on amène deux pains, dont on parlera un peu plus en détail. Mais la première occurrence, si vous voulez, de la notion de pain dans la Torah, c'est toujours très important, une leçon du Gaon de Vilna, d'aller regarder la première occurrence d'un mot dans la Torah pour savoir de quoi on parle. On parle du pain de Adam. Après la faute qu'a faite Adam, la Torah donne comme klala à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front, tu mangeras du pain, ton pain. Et donc le pain devient ici une espèce de symbole de l'existence humaine. Mais c'est-à-dire, il faut des efforts, il va y avoir de la distance, il va y avoir transformation du monde. Le Ramchal, dans Derech Hashem, Moshe Chaim Luxato, il écrit que le but de la création, c'est précisément que l'homme atteigne une perfection par son propre effort. L'homme n'a pas été créé parfait. Et rien ne doit être donné sans passage par le travail. Donc l'histoire humaine, elle peut être vue comme simplement transformer le pain de la malédiction qui a été donnée à Adam en un pain qui exprime la proximité avec Hachem, puisque le pain va être au Beth Amikdash comme le korban, une des composantes du korban de Shavuot. C'est comme ça qu'apparaissent les fameux shté alechem, les deux pains. Ces deux pains qui, en plus, devenir comme ça sous forme de deux pains, ces pains-là sont du chametz. C'est du chametz alors que le chametz n'a pas le droit de citer dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas, à part ces deux pains à Shavuot, la seule occurrence du Chametz, c'est dans le Korban Toda, le Korban que quelqu'un qui doit exprimer sa reconnaissance parce qu'il a échappé à un grand danger, qu'il est sorti de prison, etc. Lui doit porter un corban et il apporte un corban qui est composé évidemment de viande, mais qui a aussi une composante qui est une composante végétale. Composante végétale qui comprend des matzot et du chametz. Mais comme vous savez, il y a des offrandes végétales dans le Mikdash qui s'appelle mincha. Mincha, c'est une offrande végétale. Et ces offrandes végétales sont toujours matzot. C'est toujours sans chametz. Donc, Shavuot, c'est l'exception. Les deux pains qu'on amène à Shavuot sont deux pains chametz. Ces pains sont en quelque sorte offerts à Hachem, ils sont présentés à Hachem, mais finalement, ils vont être mangés par les Kohanim. C'est donc encore une fois, c'est donc la seule mincha publique qui contient, qui est en chametz. On peut vraiment dire c'est la seule absolument si on est dans le korban tzibour, puisque le korban toda c'est un korban individuel, c'est pas un korban au nom du tzibour. Vous savez qu'il y a une notion qui s'appelle korban tzibour, c'est une notion dans laquelle on apporte un korban composé éventuellement de toutes sortes de choses, mais un corban pour tout le clan d'Israël. Alors, en général, c'est ou bien ça, par exemple, le corban qu'on amène deux fois par jour qui s'appelle corban tamid, ou le corban des fêtes, le corban de Shabbat, le corban des fêtes, c'est toujours un corban pour tout le monde. Et puis, il y a les corbanotes privées que les gens ont envie d'apporter un corban. Ils peuvent le faire. Et si il y a certains korbanot qui sont prescrits, la Torah elle dit, si tu te sens éloigné, ou moi je te dis que tu es éloigné parce que tu as une conduite qui t'a éloigné d'Hachem, alors apporte un korban, qu'on traduit malheureusement en français par sacrifice, alors que ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a aucune dimension de sacré au sens sacrifice. Mais le korban, c'est la chose tarov, c'est-à-dire kouf rejbet, c'est la proximité. Le chametz est exclu parce que, d'une certaine manière, il représente l'expansion, ça gonfle, le temps. Comment est-ce que quelque chose devient chametz? C'est parce qu'on l'a abandonné au temps. C'est-à-dire, on a laissé le temps faire son œuvre. Si vous prenez de la pâte, vous la pétrissez même pendant 24 heures, elle ne deviendra jamais chametz. Et si vous la laissez, disons, 18 minutes, à peu près, elle devient chametz. Si vous l'abandonnez, vous arrêtez de la manipuler, d'arrêter de la pétrir, etc. Développement humain, quoi, toute la complexité, tout ça, c'est représenté d'une certaine manière par le Hametz. En fait, Shavuot va apparaître comme 49 jours après un certain jour, qui dans la Torah, enfin, qui de facto correspond au 16 Nissan, 15 Nissan c'est Pessah, le 16 Nissan c'est donc le deuxième jour de Pessah. Et au lieu que la Torah écrive que le 16 Nissan, je veux que vous apportiez un corban qui s'appellera Omer et qui sera composé d'orge, parce que l'orge est la première céréale qui mûrit en Eretz Israël. Et donc c'est le tout commencement du mûrissement des céréales qu'on fête en quelque sorte d'une certaine manière à Pessah. Alors, le point de départ, on va compter 50 jours, il faut qu'on dise à partir de quand. Alors, dans la Torah, ce n'est pas marqué que c'est à partir du 16 Nissan. C'est marqué qu'on commencera à compter du Mahorat à Shabbat, à partir du lendemain de Shabbat. Alors, cette formulation un peu étrange, elle a donné, bien entendu, elle a eu des grandes, grandes conséquences dans le clan Israël. Parce que les Chachamim, ils ont compris que quand on a dit Mimachorat à Shabbat, ça voulait dire Mimachorat Yom Tov Rishon. Le lendemain du premier jour de Pessah, qui est appelé Shabbat. Alors que ce jour-là puisse être appelé Shabbat, il faut le construire, on va apporter des preuves. Mais évidemment, y a des gens qui voulaient pas la. C'est une dracha de Chachamim, on ne sait pas ce qui. Personne, quand il lit Mimachot à Shabbat, il pense autre chose que ben, ça doit être le dimanche, quoi. Le lendemain du Shabbat, c'est dimanche. Alors effectivement, il y a eu des gens qui, dans le clan d'Israël, n'ont pas voulu accepter la dracha des Chachamim, parce que de façon générale, ils n'acceptaient pas la dracha des Chachamim. Et ils ont dit que qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, après Pessah, on va prendre le premier Shabbat après Pessah. Et le lendemain de ce Shabbat-là, c'est-à-dire ce sera toujours un Yom Rishon, toujours un dimanche, on commencera à compter. Donc, 50 jours après, ça sera toujours un dimanche. Et donc, Shavuot, d'après eux, sera toujours un dimanche. Et par conséquent, ça a partagé le clan d'Israël en deux. Les Tsedoukim, les Sadducéens, ils ne reconnaissaient pas les drachot de Chazal. Ils avaient un décompte qui se faisait différemment de celui qu'on faisait quand on obéissait au Chachamim. Et ils avaient un Shavuot qui était décalé. Aujourd'hui, on a une trace de cela dans la Pentecôte des chrétiens. Penta, en grec, c'est 5, c'est 50 jours. Donc, 50 jours après leur Pâques, ils ont Pentecôte, mais eux, que ce soit Pâques ou que ce soit Pentecôte, c'est toujours un dimanche. Donc, ça veut dire que Pâques, en général, devrait être toujours un samedi, si ça devait compter. Mais bon, eux, ils ont gardé le dimanche, et pour une raison que je ne connais pas, ils font 2 jours, donc que ce soit les Pâques ou Pentecôte, c'est toujours dimanche lundi.
En cool.
Ouais, mais même à Rome, c'est aussi comme ça. Alors, bien entendu, du fait qu'on amène à Pessah, enfin, à Pessah, le deuxième jour de Pessah, à partir duquel on va compter, on amène à ce moment-là un korban qui s'appelle Omer, et on va, avec une grande cérémonie, on va aller couper de l'orge, etc., et l'approcher au Beth Amikdash, un balancer comme ça. Donc, Pessah, enfin, Pessah, le lendemain de Pessah, donc, mais c'est quand même le deuxième jour de la fête de Pessah, on est caractérisé par l'orge, alors que les deux pains de Shavuot sont caractérisés par le fait qu'ils sont chametz et du blé. C'est pas, donc, on a passé de l'orge au blé. Alors, Sfat Emet, explique que le passage du Korban Omer au Shtéa Lechem est une transition, pardon, de la nature, parce que ce qu'on amène, c'est l'orge telle quelle, on amène de l'orge. Alors que les pains, c'est la suite du travail humain, c'est transformé par l'humain. Donc on passe de nature à un travail humain, avec quelque chose d'humain, le monde humain, d'accord, devient cette fois-ci une mincha, une offrande, alors que jusqu'à présent, ce qu'on amenait, c'est des choses quasiment brutes, c'est-à-dire la viande, que la shrita d'un animal, on apporte cet animal. Bon, alors, on va le cuire pour le manger, ils peuvent le manger cru, manger en, je sais pas quoi, ou le manger un peu va être brûlé sur l'autel. Mais c'est brut, quoi, c'est tel quel. Et même les menachot qu'on amène, qui sont d'une certaine manière, on pourrait dire, c'est des crêpes, quoi. Toutes sortes de crêpes avec plus ou moins d'huile, plus ou moins tunisienne ou autre. Et donc, tout ça, c'est presque cru, quoi. C'est juste le minimum. C'est la matzah. La matzah, c'est quoi? C'est vraiment farine, eau et le feu. Et quand tu mets un peu plus ou moins d'huile pour enrichir et un peu d'encens, un peu par-dessus, ça reste encore très très élémentaire, comme très non travaillé, quoi. Par contre, le pain, c'est vraiment le travail de l'homme. Le point important, par exemple formulé par Rav Tsadok de Lubin, Tsadok HaKohen, c'est que à Pessah, le Hametz est interdit parce qu'il représente, dit-il, lui, le Yetzer Hara brut, l'ego non maîtrisé. Mais à Shavuot, ce même Hametz, non seulement il est permis, il est prescrit de l'apporter au temple, de l'apporter au Beth Amikdash. Ça veut dire quelque chose d'assez bouleversant. Ça veut dire que le but n'est pas d'éliminer le Yetzer Hara, mais de l'intégrer dans le service d'Hachem. On a pris ce Yatsera et on va l'intégrer. Alors, au sujet du Yatsera et de notre rapport avec le Yatsera, je voudrais rappeler que la Gemara, elle rapporte que après la destruction du premier Beth Amikdash, une des composantes de la destruction du Beth Amikdash, c'est l'Avodah Zara. Et les Chachamim, ils ont dit à Hachem en quelque sorte, bon, visiblement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se débarrasser de l'idolâtrie. Et donc, c'est tellement virulent, tellement violent. Bon, c'est trop fort pour nous. Donc, ils ont prié pour que Hachem, non pas, fasse pas disparaître complètement le Yetzirah d'Avodah Zarah, mais que l'Avodah Zarah ne soit plus ce must qu'il était. C'est-à-dire, à un moment donné, il fallait être Oved Avodah Zarah. Pour être moderne, il fallait être idolâtre. Donc, ils ont demandé que la virulence cesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idolâtrie, en tout cas comme telle, elle n'est pas une telle virulence. Bien entendu, quand on regarde plus finement, on s'aperçoit que on est loin d'être débarrassé de l'idolâtrie. C'est d'ailleurs pour ça que, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il faut essayer d'expliquer les brachot dans Birkat HaShachar, les brachot du matin. Dans les brachot du matin, on va demander à Hachem, on va dire à Hachem, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Asani Goy. Shelo Asani Oved Avodah Zara. Shelo Asani Nochri. Ça dépend, chacun dit comme il veut. Et alors, premièrement, il faut remarquer qu'on ne dit pas chez Asani Yehudi, on dit chez Loasani Goy et Kohabim. Et le problème, c'est un peu le suivant. Et la plupart des gens considèrent que c'est une bracha dans laquelle on remercie. Baruch HaShem qui m'a pas fait goy, te remercie. Mais dans Nefesh HaChaim, il explique que le mot Baruch ne veut jamais dire remercier. Le mot Baruch, il veut dire multiplier, amplifier. Et donc, quand on fait une bracha et qu'on dit Baruch Ata, c'est-à-dire on veut amplifier. Qu'est-ce que je veux amplifier? Je veux amplifier ce que Hachem a fait. Tu te demandes, je veux amplifier ton action en tant que Boré Pri Adama. En d'autres termes, je demande que tu donnes plus, tu nous donnes plus de fruits de la terre. Et quand je demande Shelo Asani, que je dis Baruch, et que je dis Shelo Asani pour Kochavim, je demande à Hachem de m'aider à être ce que tu veux que je sois, c'est-à-dire que je ne sois pas idolâtre. Donc je demande à Hachem de m'aider à sortir de l'idolâtrie. Et pourquoi on fait ça à la bracha, nous, encore aujourd'hui, on la fait tous les jours? On l'a fait parce qu'on n'est jamais complètement sorti de l'idolâtrie. Et sur le même modèle, on peut dire, on n'est jamais non plus sorti complètement de l'esclavage. Chez le Hassani Avet, il ne m'a pas fait. Donc, j'amplifie, je demande, j'amplifie, je veux, je participe en quelque sorte en demandant à Hachem d'amplifier le fait que je ne suis pas un esclave. La tendance naturelle, c'est d'accepter, de me soumettre, de faire des compromis, etc. Et à ce moment-là, vous allez demander, alors pourquoi, qu'est-ce qu'on dit quand on dit Shelo Asani Isha? Les hommes disent Shelo Asani Isha. On va demander à Hachem de nous aider à sortir de la condition de femme. Bon, parce que le masculin, il est toujours issu du féminin, biologiquement, d'abord. Et deuxièmement, pour la raison suivante. En réalité, quand un enfant naît, on va couper le cordon ombilical, c'est-à-dire on va le couper du lien qu'il avait avec sa mère, du lien physique avec sa mère. En réalité, les hommes, ils doivent couper un deuxième cordon ombilical, spirituel ou pas matériel, mais qui est que il faut accepter de ne pas être comme ma mère. Je viens du ventre de ma mère. Donc, on coupe le lien, mais les filles, elles continuent d'être comme leur mère. Les garçons, il faut qu'ils apprennent à être autre chose que leur mère. Et on a une tentation standard qui est de s'identifier avec la mère de. Et il y a des hommes qui sortent jamais des jupes de leur mère toute leur vie. Alors, leur mère, elle prend toutes sortes de visages, mais ils sortent pas de cette situation-là. Et donc, comme c'est difficile, comme on est naturellement en tendance d'être comme celle dont on vient, alors on demande à Hachem, n'est jamais sorti complètement de cette tentation d'être femme. Donc là aussi, il faut demander, on demande l'aide d'Hachem. Les femmes qui n'ont pas besoin de demander d'aide là-dessus, Elle demande de l'aide, ce que nous, on aurait aussi pu demander, mais ce qu'on demande est plus important, c'est qu'il y a une tentation de penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est-à-dire on veut toujours être ce qu'on n'est pas. Donc, quand la femme demande, dit à Hachem, je veux amplifier le fait que tu m'as fait selon ta volonté, aide-moi à être comme tu m'as fait et de cesser de toujours vouloir être autre chose. Que ça soit à la Freud ou d'une autre manière, peu importe, la tentation d'être autre chose. C'est pas qu'elles veulent être spécifiquement, obligatoirement des hommes, mais elles veulent être autre chose qu'elles qu'elles sont. Et la première chose pour être différente de ce qu'elles sont, c'est qu'elles sont femmes, c'est-à-dire être homme. Ça, c'est la bracha. Par rapport à l'esclavage, en réalité. Alors, quand les Chachamim ont vu qu'ils ont prié pour la disparition de la virulence du Yetzirah d'Avodah Zarah, ils ont vu que ça marche, et ils ont dit, ben alors on peut peut-être prier pour la suppression du Yetzer Hara, du tout. Alors Hachem a dit, vous voulez, ok, supprime le Yetzer Hara. Mais le lendemain, il n'y avait plus une poule qui pondait un œuf. C'est-à-dire que sans le Yetzer Hara, on ne vivrait pas, on ne mangerait pas, on ne boirait pas, on ne se reproduirait pas. Parce que le Yetzer Hatov, il ne te dit pas de manger. Le Yetzer Hatov, il dit, non, il faut chercher plus haut, etc. Donc, tu ne vas pas manger. Alors, on a besoin du Yetzirah pour vivre. Mais parce que le Yetzirah, il n'est pas fondamentalement mauvais. Il doit jouer un certain rôle où il est le mauvais. Mais en fait, si on l'a vaincu, ben c'est très bien. Lui s'est battu toute sa force, comme avec Yaakov Avinu. Mais bon, il a perdu. Il n'a pas réussi à faire tomber Yaakov. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer le Yetzirah. Il s'agit de le naturaliser, si vous voulez, c'est-à-dire de l'intégrer dans le service d'Hachem. Et c'est ce qu'on dit quand on dit qu'à partir du passouk où c'est marqué Yitzer avec deux Yud, on apprend qu'on doit servir Hachem avec les deux Yetzer, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Comment on sert Hachem avec le Yetzer Hara? Ben, on met justement ces pulsions, etc. On met ça au service. C'est-à-dire, je mange pas seulement parce que j'en ai envie, mais aussi parce que j'ai compris qu'il fallait que je mange pour pouvoir faire ce que j'ai à faire dans la vie. Donc, je le mets au service du service d'Hachem, ce que j'ai à faire dans la vie. Dans les kabbalistes, le Lechem, par exemple, il dit que toute la création repose sur une structure de dualité. Il y a le don et la réception. Il y a le ciel et la terre. Il y a l'unité et la multiplicité. Et les deux parts représentent justement deux réalités distinctes qui deviennent une seule offrande, une seule mincha. Une mincha composée de deux. C'est pas deux menachot. C'est une mitzvah composée de deux pains. C'est important que ce soit deux. On peut pas dire, eh ben, au lieu d'amener deux pains d'un kilo, je vais amener un pain de 2 kilos, ou même de 3 kilos. Non, ça remplace pas le deux. Il faut qu'il y ait deux. L'union des contraires, en fait. De tension, justement. Donc, le but de la création, ça n'est pas supprimer la dualité, mais révéler l'unité à travers cette dualité. montrer qu'à un certain niveau, c'est quand même toujours un. Nous sommes dans le monde du deux. Nous disons tous les jours qu'Hachem est Echad, mais on ne voit pas qu'Hachem est Echad. C'est d'ailleurs dit que Bayom Ahou, il est Hachem Echad, ou Echad. À la fin des temps, Hachem sera vraiment Echad. On verra qu'il est Echad. Jusque-là, c'est notre Emouna qu'il est Echad, mais ce que je vois, c'est du deux. Et la création, c'est une création du deux. Hachem a créé Zahar ou Nekeva. Il a créé mâle et femelle. Donc, dans la création, Hachem a créé la paire, en quelque sorte. Évidemment, Shavuot, comme les fêtes Pessah, Sukkot, ce sont des fêtes où on doit être joyeux, on doit se réjouir. Et c'est pour ça qu'on dit que il y a des grandes discussions dans Chazal, comment on se réjouit? Est-ce qu'on se réjouit seulement spirituellement? C'est-à-dire, est-ce que je passe mon jour de Yom Tov à étudier, à prier, à étudier, ou est-ce que je passe mon jour de Yom Tov à manger et à boire? Et nous, on est possèque qu'on fait les deux en même temps, c'est-à-dire moitié-moitié. Mais comme, en fait, on pourrait aussi ne faire que du spirituel, et le jour de Shavuot, on pourrait tenter de faire que du spirituel, la Torah. Alors, Chazal disent, tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, il doit y avoir du lachem, il doit y avoir obligatoirement de la réjouissance matérielle. Le Maharal de Prague explique que la joie, justement, elle naît de la réconciliation de ces des contraires. Quand le ciel et la terre s'unissent, alors la joie apparaît naturellement. Et Rabbi Kouchner, il ajoute que le Sinaï lui-même, le Har Sinaï, quand Hachem s'est dévoilé, il était rempli de crainte, peur bleue, quoi. Qui était dans ce son et lumière qui était très très impressionnant. Mais Shavuot, qui est la fête de ce Sinaï, de ce don de la Torah au Sinaï, c'est une transformation de cette crainte-là en joie. La Torah n'est plus un feu inaccessible, mais une relation vivable la vie. Alors, on sait bien que Shavuot, comme je vous ai dit, n'a pas de date. Il n'a pas de date parce que la Torah, elle dit que tu vas compter à partir de ce fameux jour, Mimachorat HaShabbat, tu vas compter 49 jours, tu vas aussi compter 7 semaines, c'est la même chose, mais tu vas compter les jours et les semaines. Et curieusement, d'ailleurs, la fête de Shavuot, elle s'appelle fête des semaines. C'est un drôle de nom. Shavuot, c'est des semaines, pluriel. Fête de Shavuot, fête des semaines. Bon. La question, c'est la Torah, elle ne fixe pas la date de Matan Torah. D'ailleurs, la Torah n'a jamais dit quand a eu lieu Matan Torah. Dans toute la Torah, on ne dit jamais quand, à quel moment Matan Torah, le don de la Torah, a eu lieu. La raison pour laquelle elle ne donne pas de date, Sfat Emet, par exemple, il dit, c'est parce que la Torah est donnée en permanence, est donnée en particulier chaque année. Et Rav Tsadok dit, c'est parce que comme la date, elle dépend d'un compte des comptes, 1, 2, 3, etc., que Israël va faire. Comme on dit, la Torah n'est pas un événement passé. C'est une rencontre renouvelée en réalité. Bon, mais ça, ce n'est pas un très grand chidouche. Parce que, en réalité, on pourrait dire comme ça. La réalité pour laquelle il n'y a pas de date, c'est que quand tu dis que ça sera 50 jours, 50e jour, ben, entre Pessah et Shavuot, qui est à la fin du mois de Nissan, le début du mois d'Iyar, fin du mois d'Iyar, le début du mois de Sivan. Et comme nous, on a reçu, avant même d'être libérés, on a reçu une mitzvah de fixer le temps, la mitzvah de déclarer le nouveau mois commencé et de prendre appui pour déclarer ça sur le témoignage de gens qui en viennent et qui disent j'ai vu la nouvelle lune. Bon, ça se passe comme ça. Si il y a un type dans le Galil, il pense avoir vu le tout petit croissant, le commencement de la lune. Il fonce à Yerushalayim. Il est Mechalel Shabbat, le cas échéant, pour aller là-bas. Et il se précipite au Beddin, Bilal, Sanhedrin, et il dit, je viens témoigner, j'ai vu la nouvelle lune. Alors on va examiner, on peut calculer, on savait calculer déjà, est-ce que c'est possible qu'il l'ait vu? Alors ça, si c'était possible, et bon, si on va vérifier, est-ce que dans quel sens que tu as vu la courbure, comme ci ou comme ça, comme un B ou comme un D? Bon, si tout ça c'est cohérent, alors s'il y a un deuxième bonhomme qui dit la même chose, on a donc deux témoins qui disent qu'ils ont vu la nouvelle lune, le président du tribunal proclame Mekoudash, le nouveau mois est sanctifié. Et c'est le premier du nouveau mois. Mais là-dessus, le tribunal, il est souverain. Par exemple, nous, on ne veut pas avoir Yom Kippour ni vendredi ni dimanche. Parce qu'à cause du Shabbat, on ne pourrait pas se préparer ou sortir comme il faut de Yom Kippour. Donc, on ne veut pas. Donc, si maintenant quelqu'un vient et dit qu'il a vu la nouvelle lune, et on voit que si on dit que c'est la nouvelle, que le mois commence aujourd'hui, dans 10 jours, c'est Kippour, et dans 10 jours, ça sera vendredi ou dimanche, disons vendredi, le Bédine ne déclare pas le nouveau mois commencé. On a des témoins, mais on n'en tient pas compte. Il est souverain. Et on va décaler pour que. Donc, bon, alors Yom Kippour a tombé Shabbat. Ça ne nous dérange pas. Et par conséquent, comme on ne sait pas. Si le mois de Nissan et le mois de Iyar sont des mois à 29 ou à 30 jours, selon que les témoins sont venus à temps ou pas, ou que pour une raison ou une autre, on n'a pas pu garder cette. Bon, alors donc, on ne sait pas du tout à quelle date tombera le 50e jour. Donc, puisque tu ne sais pas quand dans le mois. 50e jour va tomber. Donc, sous quoi Shavuot peut tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Si tout se passe normalement, il tombe le 6, mais si les 2 mois ont été des mois à 30 jours, ben, il va tomber le 5. Si les 2 mois ont été des nombres à 29 jours, il va tomber le 6. Il va tomber le 7, pardon. Le contraire. Exactement le contraire. Et Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas de date. L'important, on ne peut pas, nous-mêmes, nous, avec nos calendriers, il y a des fois des mois avec, des mois sans, c'est-à-dire des mois à 20, des mois à 29, des mois à 30 jours. Et donc, ça peut tomber n'importe quand. On a des drachotes comme quoi Matan Torah sera le 6 Sivan, la fameuse dracha sur Yom HaShishi, le sixième jour, pourquoi? Oui. Mais bon, techniquement, la Torah, elle a donné la fête de Shavuot de telle sorte qu'elle n'ait pas de date. Pourquoi est-ce qu'il faut 49 jours? Pourquoi pas 35 ou 87? C'est-à-dire, pourquoi 49 jours? Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, je vous rappelle que les Bnei Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, ça correspondait à une vision qu'Abraham Avinu a eue. Il a eu, à un moment donné, une vision durant laquelle il s'est fait ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Il est tombé en syncope, Abraham Avinu. Hachem lui a parlé, il lui a dit que tes enfants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Ce n'était pas décidé que c'était l'Égypte, mais ce n'est pas leur pays. Et ils vont souffrir pendant 400 ans. Et ils vont sortir finalement avec un grand butin. Or, les Bnei Israël, ils ont vécu en Égypte pendant 210 ans, dont 86 qui étaient de l'esclavage. Donc, ils devaient être 400 ans, 210, il manque 190 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont sortis prématurément? Parce que, comme on explique, que les Bnei Israël avaient complètement dégringolé en Égypte. Ils étaient quand même les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, biologiquement. Mais le Rambam dit qu'on avait pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Ils avaient arrêté de faire la Mila. Ils étaient devenus idolâtres comme tout le monde. Et ils étaient à un certain degré d'impureté. C'était le 49e degré d'impureté. Il y a dans le monde 50 degrés de super pureté, d'élévation. Ça s'appelle Hamishim Shaare Bina, au niveau de Bina, d'intelligence du monde, de compréhension du monde. Et évidemment, chaque fois qu'il y a quelque chose dans le positif, il y a son pendant dans le négatif pour qu'il y ait la Bechira. Pour qu'il y ait un choix possible. Et donc, si les Bnei Israël étaient tombés encore un degré plus bas, il n'y avait plus personne pour sortir. Comme vous le savez bien, à moins 49, il n'y a qu'un cinquième qui est prêt à sortir d'Égypte. 80% disent non, ça ne nous intéresse pas. Et donc, si on était resté un peu plus longtemps, il n'y avait plus personne. Donc Hachem nous a sortis en catastrophe. Et en réalité, quand on est arrivé au Sinaï, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Au Sinaï, Hachem avait dit à Moshe, je vais te parler. Et je vais faire en sorte que les Bnei Israël entendent que je te parle. Parce que comme ça, ils te feront confiance. Quand tu diras, Hachem m'a parlé, ils ont pas n'importe quoi. Bon, oui, bon, on voit bien qu'on sait qu'on a entendu. Il a parlé. Ça veut dire que les Bnei Israël, à un certain moment, ils étaient à un degré tellement élevé, pratiquement, pour pouvoir être au même niveau que Moshe quand Hachem lui parle. Donc, ils étaient à plus 49. Donc, pour passer de moins 49 à plus 49, ça fait plus que 49 jours. Ça fait deux fois 49. Donc, ça veut dire que chaque jour, ils ont fait deux choses. Ils se sont arrachés à l'idolâtrie égyptienne et ils ont dû construire une relation avec Hachem, bon, qui va aboutir au Sinaï. C'est ça qu'ils ont dû faire. En même temps, il fallait faire en même temps deux choses, s'arracher à l'idolâtrie égyptienne et construire une relation avec Hachem. C'est-à-dire, il a fallu se purifier et construire quelque chose de nouveau, quelque chose que personne, aucun peuple n'avait jamais construit. Il fallait en même temps, d'ailleurs, qu'ils se construisent comme peuple. Parce que la masse des gens qui sont sortis d'Égypte, la masse de ces Juifs qui sont sortis, ils n'étaient pas structurés du tout. Ils avaient bien une structure tribale. Mais même là, c'était complètement flou et complètement. C'était n'importe quoi. Pourquoi? C'était n'importe quoi. Parce que les gens n'avaient pas de relation entre eux. Ils ne pouvaient pas en avoir. Parce qu'ils en étaient. Chacun était à la recherche de son souffle. Le travail était tellement terrible, les conditions étaient tellement insupportables. Qu'ils étaient à bout de souffle en permanence. Les Kotzer Ruach, la Avodah Kasha, ils n'ont pas pu entendre non plus ce que Moshe leur propose, ils n'ont pas entendu. Parce que ton souffle, quand tu en es à chercher ton souffle, tu ne veux pas t'occuper du voisin, tu t'occupes de. C'est pour ça que Hachem, à un moment donné, il a dit à Moshe, il m'a dit, s'il te plaît, demande aux Bnei Israël que les femmes empruntent à leur prochaine Réouta, des instruments, et chaque homme aussi à son prochain. Pourquoi? Parce que il voulait que dans les emprunts, il y ait de l'or et de l'argent, etc. Et que ça serait ça, certains veulent dire, que c'est une partie ou peut-être c'est ça le butin qui avait été promis à Abraham quand ils sortiront d'Égypte, il y aura un butin. Bon, à tout le monde dit, voilà, ils ont emprunté auprès des Égyptiens parce que les Bnei Israël, à ce moment-là, à la fin de l'époque, ils étaient en bon terme avec les Égyptiens. Les Égyptiens avaient bien compris que les tuiles qui leur tombaient sur la tête sous forme de plaies, elles étaient dues à Paro et pas à Moshe. C'est parce que Paro voulait pas céder. Mais le Gaon de Vilna pose une super question. Il dit, jamais dans la Torah, le mot Réa, Réuta, etc., nous désigne un goy. Et comme la Torah, elle dit que Hachem a ordonné que chacune emprunte auprès de sa Reouta et chaque homme auprès de son Reou, ils ne peuvent pas avoir emprunté auprès des Égyptiens. Alors comment ça marche? Si c'est, est-ce que c'est parce que c'est pas obligatoire de dire que c'est le butin, mais peut-être. Personne ne dit que le butin, c'est l'or et l'argent. Bien sûr que la tentation, c'est de dire non, c'est l'or et l'argent. Bon, mais la vérité, c'est que c'est compliqué de dire que c'est l'or et l'argent. Une raison qu'on verra plus tard. Mais le Gaon dit, c'est autre chose. Le Gaon dit, le fait d'emprunter, Il s'agissait d'emprunter à son prochain, à la copine juive, à son copain juif. Ça ne va pas faire de l'or et de l'argent, ça c'est. Mais parce que le but, ce n'était pas de faire de l'argent dans cet emprunt-là. Pourquoi est-ce qu'Hachem voulait qu'on emprunte? Parce qu'il voulait fabriquer artificiellement des relations entre les Juifs. Il n'y en avait pas. Et donc, s'il devait sortir d'Égypte, il fallait qu'il soit au moins un embryon de peuple. Il y a un tout petit peu de structure qui va permettre de faire un peuple. Et il n'y avait rien de tout cela. Donc Hachem voulait, en empruntant, en rendant, ça oblige les gens à se parler les uns aux autres et de s'ouvrir à l'autre, de dire, tiens, prête-moi ça, oui, je peux te prêter ça, etc. OK, alors maintenant, comment ça arrive à l'or et à l'argent? C'est que quand les Égyptiens se sont aperçus que c'était vraiment très agréable, une société dans laquelle on s'emprunte, on se rend, on se parle, etc. Parce que probablement, Paro et cette situation, c'était probablement une dictature. Donc, eux non plus, ils n'étaient probablement pas tellement heureux. Donc, ils se sont dit, si, nous, on veut aussi en être alors de cette population qui s'emprunte. Et donc, eux aussi, on leur a prêté, on a emprunté. Et eux, ils ont prêté des choses que les Bnei Israël n'avaient pas, c'est-à-dire de l'or et de l'argent. Donc, c'est pour ça que les Bnei Israël se sont retrouvés à un moment donné à avoir des instruments, des ustensiles d'or et d'argent au moment où ils sont partis. Ils sont partis avec ça. On reparlera de ça. Et donc, le clan d'Israël qui est sorti d'Égypte, il avait seulement cet embryon de relation. Quand ils ont passé de la sortie d'Égypte au Sinaï, ils ont eu un cheminement, oui, 50 jours, ils ont fait des étapes. Ces étapes ont dû camper. Alors, la Torah, elle parle de ce campement des Bnei Israël. Elle dit, ils ont campé. Quand elle arrive tout à la fin et qu'ils ont campé au pied du Sinaï, alors c'est marqué, Israël a campé. Ça veut dire, pour la première fois, on parle de camper au singulier. Là, on parlait de camper au pluriel. Et là, maintenant, camper au singulier, ça veut dire le peuple a campé. Il n'y avait pas de peuple avant. Vous ne pouvez pas parler d'un peuple qui aurait campé. Il y avait des individus qui, par groupe, ont campé. Mais il n'y avait pas de peuple. Et donc, ce n'est qu'au pied du Sinaï qu'ils deviennent un peuple. Quand on dit au pied du Sinaï, certes, on se pose la question, est-ce que ils sont devenus un peuple qui a permis qu'ils reçoivent la Torah, parce que la Torah, elle s'adresse à un peuple, elle s'adresse pas aux individus. Ou bien est-ce qu'ils ne sont devenus un peuple que parce qu'ils ont reçu la Torah? C'est ouvert la question. Par exemple, le Rav Sadia Gaon, qui est le premier, disons, philosophe juif, quoi, 10e siècle, lui dit, nous ne sommes un peuple que par la Torah. Parce que c'est vrai que si vous réfléchissez au lien qu'il peut y avoir entre un juif d'Helsinki et un juif de Sanaa au Yémen, ils ne mangent pas de la même manière, ils ne parlent pas de la même langue, ils ne sont pas habillés de la même manière, ils n'ont pas des relations familiales de la même manière, etc. Il n'y a rien. Rien d'autre que la Torah. Ils ont en commun, c'est la Torah. Ils n'ont rien d'autre. Et depuis le 19e siècle, quand il y a eu une espèce de sécularisation globale du monde entier, les Juifs aussi ont cherché à fabriquer un judaïsme sans Torah. Un peuple juif sans Torah. Ils ont cherché par quoi est-ce qu'il pourrait bien être juif. Ils ont pensé à toutes sortes de solutions et le sionisme en était une aussi. Mais bon, visiblement, ça ne marche pas. Ils ne vont jamais être un peuple comme les autres, ce qui était leur projet. Au contraire, on voit bien qu'ils sont devenus le juif des nations. Peut-être seulement à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Et effectivement, tout ce qui se passe en Israël affecte le nom d'Israël, c'est-à-dire affecte tous les gens dans le monde, tous les juifs dans le monde. Le Rav Dessler, il dit que le conte du Homer construit le cli, le réceptacle intérieur. Sans ce travail progressif, la Torah ne peut pas être intégrée. Le Sfat Emet, il ajoute que pourquoi on compte les jours et les semaines? Compter les jours, c'est la purification des détails. Et compter les semaines, c'est construction de la structure. Donc, la Shavuot, c'est l'aboutissement d'un travail humain complet, à la fois les détails et à la fois la structure. Donc, on peut se poser la question. Pourquoi Hachem veut le travail humain? Bon, par exemple, Ramoucher Khamilou Tsato, le Ramchal, Shavuot est presque jamais traité comme une fête. Il est expliqué comme une étape d'un projet cosmique, quoi. Pendant Hachem, il explique. Le but de la création, c'est que l'homme mérite la proximité divine, d'être proche d'Hachem, par ses propres actions. Pas que ce soit tout le travail soit fait par Hachem qui s'approche des hommes, mais approchez-vous de lui. Mais sans travail, si on ne travaille pas, si on ne travaille pas, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de perfection réelle, il n'y a pas de relation. Donc, le Homer, c'est la progression humaine vers la Torah. Progression, 49 jours. Donc, on peut poser la question, pourquoi est-ce que le don de la Torah vient après la sortie d'Égypte? Pourquoi il fallait passer par... Alors, justement, le Ramchal explique que... C'est qu'Israël devait passer par l'esclavage, la libération, la purification, et seulement après viendrait la Torah. Parce que la Torah ne peut pas être donnée, enfin, elle peut pas être donnée qu'un seulement si le peuple est libéré, s'il est préparé, s'il est transformé. C'est ça le travail des fameux 40. La Torah, elle va transformer la matière. Bon, ce qu'on sait, c'est que l'homme va pouvoir sanctifier les actes matériels. C'est-à-dire manger va devenir une mitzvah. Travailler va devenir Avodat Hashem. Le pain, pas seulement une nourriture, peut devenir une offrande à Hashem. Donc là, on voit Quel est le rôle de ces fameux Shtéhalakhem? Et le monde devient le lieu de la présence divine. Le but de l'exercice, c'est que la présence divine réside dans le monde matériel. Or, c'est justement ça, Shavuot. Par exemple, si on regarde Rav Dessler, dans Miftam Eliyahu, il explique d'abord que la clé de Matan Torah, c'est donner par opposition à recevoir, mais que l'homme va se construire par le don, pas par la réception. Le don, c'est être actif, la réception, c'est être passif. Pourquoi c'est fondamental de comprendre ça pour Shavuot? Parce que Pessah, c'est une réception gratuite. Omer, ça va demander du travail. Et Shavuot, d'une certaine manière, ça va être le mérite qu'on s'est acquis durant ce travail qui va permettre de recevoir la Torah. Donc on a travaillé pour la recevoir, cette Torah. Les Sfarim, c'est écrit que à Pessah, c'était Itaharuta de Leila, c'est l'éveil d'en haut. Parce que à Pessah, les Juifs ne se sont pas qualifiés pour sortir de l'Égypte. La sortie d'Égypte, Hachem a dit au peuple d'Israël, ne sortez pas d'Égypte parce que vous avez pleuré ou parce que vous avez souffert, etc. Sortez d'Égypte parce que je l'avais promis à vos ancêtres. Complètement passif. Donc tellement passif, dans la Haggadah, on dit, Vat, que dit, le clan d'Israël était nu de mitzvot, Aroum, complètement nu, aucune mitzvah. Et Hachem a jugé que pour venir et prendre le clan d'Israël au milieu des Égyptiens, là où ils étaient, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui les distingue. Alors il a décidé de leur donner deux mitzvot. Il a donné la mitzvah de Mila, et la mitzvah de Korban Pessah. En fait, elles sont liées parce que on ne peut pas manger le Korban Pessah si on n'est pas maoul, si on n'a pas fait la mila. Et non seulement sa propre mila, mais la mila de ses enfants, la mila de ses esclaves. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a donné ces deux mitzvot-là? Comme vous voyez, ces deux mitzvot qui ont à voir avec le sang. Dans la Mila, on verse un peu de sang. Dans le Corban, c'est signé à l'animal. Pourquoi ça a à voir avec le sang? Parce que je suppose que vous savez qu'à un moment donné, quand Moshe est allé chez Paro pour lui dire de laisser partir les fils d'Israël, à un moment, pas la première fois, mais au bout d'un moment, Paro lui a dit, mais est-ce que tu vois ce que moi je vois par mes astrologues, je vois que le clan d'Israël, il a la planète rouge dans son en pleine figure. Bon, le rouge, c'est la mort. Et le sang, c'est la mort. Donc, Paro, il dit à Moshe, il dit, écoutez, bah, vous voulez sortir, bah, sortez, mais au moins laissez les enfants ici, que les enfants ne meurent pas. Et Moshe, il dit, pas du tout, on va sortir avec tout le monde. Donc, Hachem a fait en sorte que ce sang qui était à l'horizon, mais qui était un sang de mort, devienne un sang de vie. Quand on fait la mila d'un enfant, on dit, Bedamaïr Chayi. On dit deux fois, Damaï Chayi, à ce moment-là, on lui met une petite goutte de vin. Ça veut dire avec tes sangs, vie. C'est le moment de la Mila, mais c'est aussi réminiscent de quand même ça. On va verser du sang, et au lieu que ça soit un sang mortel, en hébreu, quand tuer quelqu'un, on dit être chofer dam, verser du sang. Et on dit pas chofer dam quand on blesse quelqu'un, même s'il perd pas mal de sang. Chofer dam, ça veut dire. Chofer dam, ça veut dire verser du sang. Et donc, Hachem a. C'est comme toujours, avec toute la détermination, d'accord, on a une détermination, une nature un peu plus sanguine, si on parle comme ça, mais chacun a, quelle qu'elle soit son tendance générale, on a tout le spectre de toutes les attitudes qu'on peut avoir avec tout ça. On peut être bandit des grands chemins qui vont égorger tout ce qui bouge, et on peut être. Chirurgien, on peut être chochet, on peut être moelle, etc. Il y a tout l'éventail est là. Donc, on a travaillé pour transformer ce sang de mort en un sang de vie. C'est ça les mitzvot qu'il leur a donné. Et avec ça, ces deux mitzvot ont fait en quelque sorte la différence. Et en réalité, toute cette histoire de sortie d'Égypte, ça débouche sur le fait que la Torah doit être méritée. Et Rav Dessner, il dit que tout ce qui est reçu gratuitement n'est pas intégré. Donc la Torah ne peut pas être donnée immédiatement après l'Égypte. Ne peut pas, parce que certains posent la question, pourquoi il fallait attendre 50 jours pour leur donner la Torah? Fallait un travail intérieur d'abord. Même si ce travail intérieur n'a pu être fait parce qu'il y a sans. Il n'aurait pas pu être fait sans une aide faramineuse d'Hachem, puisqu'il fallait passer de moins 49 à plus 49. Mais les Bnei Israël devaient faire quelque chose. Et donc, comme dit Rav Dessner, il va falloir construire un kli qui va nous permettre de recevoir la Torah. Donc, il faut que nous devenions le kli, le réceptacle capable de recevoir la Torah. S'il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de Torah. Une source directe. Pour expliquer donc les jours, les semaines, toute la notion de préparation humaine comme construction de ce kli, de ce réceptacle. Alors, la Torah, elle est renouvelée chaque année. Chaque année, la lumière de Matan Torah revient. Mais ça dépend toujours de notre préparation. Donc la Torah, elle n'est pas seulement donnée par Hachem, elle est aussi rendue possible par le travail des hommes. En réalité, le travail des hommes, si on peut parler comme ça, le fait qu'Hachem veut que nous soyons ses associés, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. On soit associé, c'est pour ça que il nous met en situation de participer, si on peut parler comme ça, au fonctionnement du monde. Et pour participer au fonctionnement du monde, il faut être actif. La passivité, bon, c'est vrai que on pourrait. L'activité peut être d'abord se rendent capables de recevoir ou qui soient même. Quand je reçois, je suis passif, mais j'ai fait un travail pour me rendre capable d'avoir le client en question, que je peux recevoir. Mais on peut dire un petit peu comment, en fait. On peut dire que Moshe Rabbeinu, dès le départ, il a voulu que les Bnei Israël soient actifs. Il veut que les Bnei Israël fassent des choses. Et quand Hachem a dit aux Bnei Israël, il a dit à Moshe, aux Bnei Israël, il allait leur donner la Torah. Alors, Moshe a dit, ça veut dire quoi? Hachem va nous donner la Torah et nous, on va recevoir passivement. Alors, que la sortie d'Égypte ait été de notre part une passivité, ça s'appelle Itaruta de Leila. L'éveil vient d'en haut. Tout est venu d'en haut. Mais il s'agit de remplacer cet éveil d'en haut par Itaruta de l'Etata, un éveil qui vient d'en bas. Comment on fait? Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait la chose de la manière suivante. Hachem avait dit aux Bnei Israël, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut que vous purifiez, que vous prépariez en vous purifiant. Et il leur a dit, voilà, vous allez vous purifier Hayom ou Machar, aujourd'hui et demain, et donc après-demain, je donnerai la Torah. Moshe Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël, vous allez vous purifier aujourd'hui, demain, et aussi après-demain. Et à Hachem, il a dit, quand Hachem lui dit, je vais donner la Torah le troisième jour, et Moshe Rabbeinu, il a dit, non, le troisième jour, non, on n'est pas prêt, il donnera le quatrième jour. Il a ajouté un jour de préparation. On ne comprend pas du tout. Si Hachem a dit qu'au bout de Hayom et Macha, on était pur, qu'est-ce qu'on a fait pendant le troisième jour de purification? En vérité, il ne s'agissait pas de se purifier plus. On ne peut pas. Si Hachem a dit qu'on est pur, on est pur. Mais pour comprendre un peu ce que Moshe a fait, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je vais répéter. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, il se peut très bien que le cadeau que vous avez choisi soit un cadeau qu'on peut donner en cadeau de mariage, en cadeau de fiançailles, en cadeau de bar mitzvah, en cadeau l'inauguration d'une nouvelle maison, etc. Et même si vous prenez le même objet, mais suivant quand vous l'avez donné, il sera perçu comme autre chose. Il aura une autre valeur. C'est cadeau de mariage, cadeau de fiançailles, cadeau de bar mitzvah. Ce n'est pas la même chose. C'est le même objet. Mais le moment où il est donné fait partie de la définition du cadeau. Le cadeau n'est pas le même si vous donnez le même objet mais à des moments différents. Donc, Moshe Rabbeinu a fait en sorte que les Bnei Israël participent au cadeau. Pas seulement qu'ils vont le recevoir, mais ils vont être du côté du donneur du cadeau. Comment? En disant quand il va être donné. C'est les Bnei Israël qui vont dire quand la Torah va être donnée. Pour la force, c'est Moshe qui a dit, non, la Torah sera donnée le quatrième jour, pas le troisième. C'est-à-dire à Hachem, pas ce jour-là, comme tu veux, mais le jour d'après. Donc, il a fait passer les Bnei Israël de l'autre côté. Ils sont du côté du donneur. Puisqu'ils participent au don. C'est eux qui définissent quand le don aura été fait. Pourquoi il voulait faire ça? Il voulait qu'on ne soit pas seulement du côté du récepteur, parce que bien sûr qu'on continue d'être du côté du récepteur, mais qu'on soit aussi un peu associé à Hachem. C'est comme si le cadeau il a été donné ensemble. Les deux. Sur la carte, on a signé. Hachem a signé, nous aussi on a signé. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Nous, c'est lui qui a payé, c'est lui qui a choisi, etc. Et nous, on a dit, ben, on a choisi le moment adéquat pour le donner. Et c'est déjà une choute-foute avec Hachem. On est associé avec Hachem dans le don de la Torah. Ça veut dire que d'une certaine manière, nous nous sommes donnés à nous-mêmes la Torah. Ce n'est pas que la Torah, on l'a seulement reçue, mais nous nous sommes donnés la Torah aussi. Ça, c'est bien sûr, c'est la volonté d'Hachem. Ce n'est pas nous. Quand Moshe, il a fait ça sans demander la permission à Hachem, et Hachem lui a dit après coup, il lui a dit, tu as bien fait, comme il lui a dit, tu as bien fait de briser les premières tables. Là, Moshe a pris des initiatives et Hachem a dit, tu as bien fait. Il a entériné et même ben, fait des compliments à Moshe Rabbeinu d'avoir fait cette chose-là. Parce qu'il a compris, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a compris ce qui se passait. C'est pour ça que quand Hachem dit, après le Hegel, au début, Hachem, il avait condamné les Israël à mort. Et Moshe Rabbeinu a commencé à négocier. Quand il a négocié, à un moment donné, Hachem a dit, OK, je vais pas détruire le clan Israël. Je vous enverrai un malar qui va vous guider, etc. Et Moshe Rabbeinu a dit, mais si c'est pour nous envoyer un malar, tu peux nous détruire tout de suite. Je marche pas. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire, je veux la possibilité d'un contact direct avec Hachem. Je ne veux pas que nous passions par les intermédiaires. Parce que le contact avec direct Hachem, ça veut dire, quelque part, on va être shoutaf Hachem, on va être, c'est ça, être direct avec Hachem. Et mon cher Avelou a joué son va-tout, quoi. Il a dit, c'est où tu acceptes de nous remettre dans une situation où on est directement en contact avec toi, ou alors on marche plus. Le jeu s'arrête. Tu n'as plus le peuple. Et Hachem a cédé parce que ça veut dire Hachem a. C'est une façon de dire, c'est pas que il a cédé contre sa volonté. D'accord? Ça veut dire que Hachem dit que les hommes commencent à comprendre les choses. Comprendre, comment c'est pas évident. Pour un peuple, on a un Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Bon. Ça, la grande idée, c'est que nous ne sommes pas du tout sortis d'Égypte pour être libres au sens de nous ne sommes pas esclaves. C'est pas du tout ça le but. C'est la Torah, c'est un mode de vie. C'est pas une loi, simplement. Il y a une loi dedans, mais c'est tout un mode de vie. C'est un regard sur le monde. C'est un regard sur l'autre. C'est un regard des hommes sur les femmes ou des femmes sur les hommes, etc. C'est un regard sur le rapport avec les enfants. Bon, sur l'importance des enfants dans le clan d'Israël. L'étude, le fait que les enfants doivent absolument aller, dès que possible, on les met à l'étude. Et que c'est dès que possible. Enfants juifs, ils avaient d'autres enfants, ils étaient en train de balader dans la nature. Et les enfants juifs, ils étaient déjà assis au Frider en train d'en apprendre. C'est tellement fondamental l'étude, parce que l'étude, c'est avoir la parole d'Hachem dans sa bouche. C'est ça le. C'est nous qui produisons la Torah. Voilà, on s'arrêtait là.
Oui. On a